Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis et auditeurs, amis et auditrices, bonjour. Ces derniers mois, dans l'actualité, émerge sur fond de la guerre en Ukraine, la hausse du prix de l'essence et des produits de grande consommation, le recul du pouvoir d'achat qui touche beaucoup de personnes, notamment bien sûr celles aux revenus les plus faibles. Ce phénomène massif, nous le constatons, nous le vivons, de même que notre vigilance peut être prise en défaut face aux différents types d'arnaques qui menacent notre portefeuille. Pour nous en parler, j'ai invité Marina Sekal-Bersinger. Bonjour.
Bonjour.
Votre parcours professionnel vous a conduite à la tête d'établissements médico-sociaux dans les Pyrénées-Orientales, puis à Montpellier. En 2018, vous êtes engagée comme bénévole à l'UFC Que Choisir, la plus importante association française de défense des consommateurs. Vous étiez de longue date lectrice de son magazine Que Choisir. Et depuis octobre 2020, vous présidez l'association locale de l'UFC Que Choisir, dont vous êtes également administratrice nationale. Mais d'abord, racontez-nous votre Montpellier, ou plutôt, racontez-nous Montpellier vu du Crest, où vous habitez depuis 2008. Quels sont les lieux de Montpellier qui figurent sur les cartes postales ou pas, que vous aimez particulièrement? Qu'est-ce qui vous attache à Montpellier?
Alors, à vrai dire, si je parle sincèrement, Montpellier, c'est aussi une histoire d'amour, parce que j'ai rencontré un Montpelliérain il y a 20 ans, ce qui a motivé ma venue dans cette ville. Voilà, donc nous habitions au début dans le quartier des Beaux-Arts, un très beau quartier dans Montpellier. Et ensuite, professionnellement, comme j'ai dirigé un établissement sur le Crest, nous avons déménagé au Crest. J'aime beaucoup Montpellier par... son côté culturel, son monde associatif, ses rues, ses espaces verts, son architecture. Voilà, je suis catalane d'origine, mais j'aime beaucoup la ville de Montpellier.
Très bien. Donc, quand il y a des amis ou des parents de passage qui viennent à Montpellier, vous leur conseillez tel ou tel endroit, peut-être moins connu, pas nécessairement ce qu'on trouve dans les dépliants touristiques, je ne sais pas quoi, un restaurant, une place ou... que vous affectionnez particulièrement?
Alors, j'ai fait mon diplôme, en réalité, il y a très longtemps, à Montpellier, et j'adore le jardin des plantes. J'étais à l'époque dans un tout petit hôtel qui s'appelle Les Fauvettes, qui est au pied du jardin des plantes, où j'ai fait mon cursus professionnel. Voilà. Donc, j'aime beaucoup tout le centre historique. J'adore Ricardo Bofill, je suis catalane, donc j'aime beaucoup les constructions architecturales.
La veine catalane est bien présente.
Voilà, qu'il y a eu dans la ville. Et puis son évolution, j'aime vraiment, c'est une belle ville.
Alors, à propos d'évolution, bon, vous l'avez observé et vécu, bon, la ville a beaucoup grandi, en population, avec les conséquences que ça peut avoir sur la circulation, mais on ne va pas aujourd'hui aborder ce sujet. Croissance démographique aussi. Et cette croissance, vous l'avez perçue plutôt positivement parce qu'elle, parfois, elle suscite des critiques, voire des inquiétudes.
À vrai dire, moi, je trouve qu'il y a une bonne évolution, ne serait-ce qu'au niveau des mobilités. Les décisions politiques actuelles nous conviennent assez. Nous sommes membres du nouveau comité des mobilités qui s'est mis en place dans la ville. Nous participons à pas mal de réflexions environnementales au niveau de la qualité de l'eau. Donc, je trouve qu'il y a une bonne concertation pour les associations avec la ville, voilà, et la métropole.
On peut le dire au passage, c'est que bon, l'UFC participe à un certain nombre d'instances, des instances officielles, mais également des formules de constatation ou d'écoute telles que celles que vous avez décrites à l'instant. Là.
Oui, tout à fait. Nous avons beaucoup de représentations. Alors, il y a
Vous pouvez citer les principales, en tout cas
la Banque de France, parce que ça concerne...
Pour les questions d'endettement,
voilà,
je suppose.
Voilà, sur endettement, au niveau du tribunal, sur l'aide juridictionnelle, ça aussi. Et puis après, tout ce qui est environnemental, donc la qualité de l'eau, nous siégeons à Maïra. Nous sommes à l'ATMO aussi par rapport à la qualité de l'air.
Maïra, c'est la station d'épuration.
Voilà, d'épuration.
L'ATMO, c'est la mesure la de la qualité de l'air.
Voilà. Maïra, les enjeux, c'est aussi la réutilisation des eaux usées. Hein. Il y a un projet très intéressant et nous voulons absolument être acteurs dans ces réflexions-là.
Très bien. Alors, passons au sujet principal qui vous amène à notre micro, madame. Qu'est-ce qui vous a conduit à rejoindre BFC Que Choisir ? Quel a été, je dirais, le moteur, le ressort de cet engagement ?
Alors, ce que j'apprécie dans cette association, donc vous l'avez dit, j'étais lectrice depuis des décennies du magazine. Et j'ai vu sur la Gazette un jour qu'ils recherchaient des bénévoles sur Montpellier lorsque j'ai arrêté mon activité. Et j'aime le côté, l'indépendance de cette association, son militantisme et son expertise. Et ça, on le retrouve à la fois dans le journal et à la fois sur le terrain.
Dans l'action quotidienne que les bénévoles déploient.
Exactement, parce qu'au niveau de Montpellier, donc, nous avons 1670 adhérents. Nous sommes 62 bénévoles. Et nous existons sur Montpellier depuis 1976.
Ah donc, oui, donc une implantation ancienne.
Voilà. Et au niveau national, c'est 1951. On a fêté nos 70 ans. Voilà.
Alors, le nombre d'adhérents tend à augmenter, là. Bon, quelle est l'allure qu'a la courbe ?
Il augmente tout en n'étant pas non plus dans un développement
spectaculaire,
mais parce que, d'abord... les gens ne connaissent pas forcément, correspond à un certain public, plutôt senior. On a du mal à toucher l'ensemble des consommateurs. Et pourtant, nous développons vraiment des actions qui doivent intéresser, qui touchent tous les consommateurs. Les jeunes nous connaissent sur, par exemple, des actions sur le fait de pouvoir modifier l'assurance emprunteur. Vous voyez, on a gagné des combats où, pour un jeune qui s'installe et qui s'engage dans un emprunt, bon, ben, ça lui fait gagner pas mal... De sommes importantes sur le temps de son emprunt. Donc, les jeunes nous connaissent aussi par rapport à nos tests.
Oui, les tests sur les produits, donc,
voilà.
Les tests comparatifs. Oui,
ouais, les tests comparatifs, produits, services. Donc là, si on pose les questions mettons, pendant la journée des associations, ben, les jeunes, voilà. Ah oui, on vous connaît pour les tests. Mais ensuite, moins pour les litiges. On aimerait d'ailleurs toucher davantage les étudiants, hein, parce qu'il y a pas mal de problématiques.
De loyers,
voilà,
notamment.
Hein,
oui.
Sur les loyers. Donc, on essaie d'organiser des rendez-vous conso pour aller au plus près des consommateurs. On fait ça quelquefois à la Gazette, sur des thématiques sur les mutuelles.
À la Gazette Café,
vous voyez, sur comment changer de mutuelle. On peut... faire des évaluations, hein, des besoins. Mais nous, l'intérêt, c'est d'avoir des consommateurs responsables et éclairés. C'est-à-dire, voilà, vous voulez changer de mutuelle, mais en réalité, vous avez besoin de quoi dans votre mutuelle ? On n'a pas les mêmes besoins si on a 70 ans que si on a 20 ans. Donc, on essaie d'avoir ce côté conseil pour être dans une consommation responsable, plus sobre, et donner les outils aux consommateurs pour avoir un choix éclairé. Voilà.
Les outils d'information, les outils de compréhension qui conduisent ensuite à un choix éclairé pour le coup. Là.
C'est ça.
D'accord. Alors, pour pousser plus loin cette question, pourquoi à vos yeux la défense des consommateurs est importante et peut-être particulièrement importante actuellement ? Parce que quels sont les enjeux, je dirais, de cette activité et liée bien sûr à la vie quotidienne de chacun ?
Bien, ce que l'on souhaite, c'est que le consommateur soit acteur. Il faut peser dans les débats, il faut agir pour une consommation plus sobre, plus juste, plus responsable. Et donc, c'est donner ce pouvoir, le pouvoir d'achat, avec un pouvoir d'agir. Vous comprenez, c'est lié.
Prendre ce mot dans son sens entier, pouvoir.
Exactement. Avec un pouvoir d'agir pour peser sur les décisions nationales, des politiques.
Oui, parce qu'on peut avoir l'impression que quand on est un consommateur, en France, isolé, d'être, je dirais, impuissant par rapport à la force, à la puissance, à la voix des pouvoirs publics qui ordonnent une partie au moins de la consommation et la puissance, je dirais, des grands commerces, des supermarchés, en tout cas des acteurs éminents du monde de la consommation.
Oui, mais justement, lorsqu'on fait nos actions, par exemple sur le Nutri-Score, on s'attaque aux grandes boîtes alimentaires. Hein, c'est-à-dire que c'est pas forcément... On a par exemple des outils avec des cartes interactives sur les circuits courts, hein, sur la qualité de l'alimentation, mais on s'attaque aussi à la production parce que les personnes à faible revenu souvent achètent plutôt en supermarché.
Bien sûr.
Et le fait de pouvoir analyser la qualité des produits les plus courants permet justement toujours cet éclairage du consommateur. Nous avons fait par exemple une enquête sur les repas bio dans les cantines. Eh bien, ouais. En réalité, souvent, on retrouve là davantage de produits transformés. Donc voilà, en se donnant bonne conscience d'avoir un repas bio, il n'est pas forcément de qualité. Donc nous, c'est ça. Nous sommes un petit peu, nous souhaiterions être des lanceurs d'alerte, ouais. Pour pouvoir modifier, éclairer et peser sur les décisions des politiques.
Donc faciliter la vigilance des consommateurs, quoi, les armées.
Ouais. C'est pour ça que l'on fait des enquêtes au niveau de la grande distribution. Voilà, nous avons des actions de terrain très importantes.
Alors, on va les développer. Revenons à votre mode d'organisation. Donc, un local, une permanence.
Oui, nous sommes trois rue Richelieu, à Montpellier, derrière l'Opéra. Ce sont des locaux mis à disposition par la ville de Montpellier. Et là, nous sommes ouverts tous les jours, enfin du lundi au jeudi, puisque le vendredi, nous sommes sur Lunel.
Donc vous tenez des permanences à Lunel.
Voilà, nous avons une présence physique hein, tous les jours. Nous avons une salariée et tous les jours, vous avez une secrétaire, une personne à l'accueil et des conseillers litiges.
D'accord. Et aux horaires de bureau, grosso modo, pour aller jusqu'au bout là, voilà,
8h midi, 14h, 18h.
Alors ça, c'est un des principaux points d'accès, mais il y en a d'autres, j'imagine. Je sais pas quoi, le téléphone, le mail.
Bien sûr, nous avons notre site. Nous faisons beaucoup de traitements de litiges en ligne, soit qui proviennent sur notre site, soit qui proviennent de notre mail contact@montpellier.ufcquechoisir.fr. Voilà, nous avons beaucoup de mails. Pour vous donner une idée. Sur l'année 2022, nous avons traité 1700 litiges. Ouais. Nous avons reçu sur Montpellier environ 2500 personnes. Donc, ça fait beaucoup de monde. Mmh. C'est un énorme travail. On a essayé d'ailleurs d'analyser, avant de venir, là, je regardais par rapport à l'année passée pour voir un petit peu le type de litige que nous avions le plus souvent. C'est intéressant. Et majoritairement, ce sont des litiges avec les services marchands, les achats sur Internet, le tourisme, le transport aérien. Et après, en deuxième, ce sont les problèmes de logement, de copropriété,
donc des litiges locataires-propriétaires litiges avec les établissements prêteurs, les banques, par exemple,
aussi,
ça peut rentrer dans
beaucoup,
ce champ-là.
Beaucoup, oui. Ensuite, c'est en troisième position, les banques, les crédits. En quatrième, c'est les opérateurs de télécommunications, puis les assurances, voilà, tous ces domaines-là, puisque notre champ d'intervention... par exemple, nous ne faisons pas du tout du droit de la famille. Hein. Nous faisons du litige entre une personne et un professionnel ou une administration, enfin, ce que nous traitons. Nous ne traitons pas non plus le droit du travail. Voilà, on est vraiment dans le droit de la consommation au sens large.
D'accord. Alors, en ce qui concerne les litiges, comment ça se passe? Bon, si on veut bénéficier de vos services, hein, il faut adhérer à l'association. Commençons par ça pour que ce soit clair pour chacun.
oui, nous n'avons pas le droit de traiter des dossiers de litiges si les personnes ne sont pas adhérentes de notre association. Donc, il y a une adhésion sur le site de Montpellier.
Quel est le montant de la cotisation?
Alors, sur Montpellier, c'est 38 €. Si vous passez par le site Internet en traitement des litiges en ligne, là, c'est 30 € puisque c'est le tarif national.
D'accord. Voilà. Un petit bonus quand on passe, en ligne.
Voilà, tout D'accord. à fait.
Et donc, bon, on a une problématique à formuler par les différentes voies que vous avez indiquées. Et ensuite, le cas est traité, examiné. Et j'imagine qu'il y a un travail de recueil d'informations pour bien connaître le dossier, pour en tout cas... être en mesure d'apprécier la nature de la difficulté et pour pouvoir, bien sûr, orienter les personnes qui s'adressent à vous. Quoi,
hein. Oui, voilà. D'abord, la première mission, c'est d'abord l'information. Hein. Mmh. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui n'est pas adhérent, qui a besoin d'un conseil et d'un éclairage, on va bien sûr répondre aux consommateurs. Ensuite, il y a le conseil. Et puis ensuite, il y a la défense si le consommateur a lui-même déjà engagé une première action et nous pouvons l'accompagner. Nous n'avons pas une obligation de résultat. Nous allons conseiller au mieux ce consommateur. Cela est trop important, nous avons des avocats partenaires, nous travaillons aussi avec les conciliateurs de justice. Bon, voilà, on va pouvoir éclairer, accompagner le consommateur pour arriver au mieux dans la résolution de son litige. Mais c'est souvent des questions de bon sens, hein. C'est souvent la personne se sent arnaquée, coincée, n'a pas bien évalué la situation. Donc, avec un éclairage, un accompagnement, nous arrivons à résoudre beaucoup de litiges.
Oui, parce qu'il y a des cas types, j'imagine, qui reviennent fréquemment.
Oui.
Voilà, vous identifiez assez rapidement quel est le problème et quelle orientation, quelle solution, quelle voie vous conseillez à la personne qui vient frapper à votre porte.
Et puis nos bénévoles sont formés obligatoirement sur toutes les thématiques de la consommation. Sur la banque, les assurances, il y a des formations obligatoires pour être... et puis ensuite, on a surtout notre service juridique national aussi, il y a vraiment de très très bons outils. En réalité, que choisir, on ne se rend pas compte, mais ça représente 700 000 membres au niveau national. D'accord. C'est énorme.
Donc ça fait une implantation et un cumul d'expertise.
Bien sûr. Oui, le service juridique est un service très costaud.
Oui, parce que souvent, le problème est à caractère juridique. Il peut être à caractère technique ou technico-juridique. Je ne sais pas quoi, un litige avec un mécanicien, par exemple, où il faut apprécier si la facture correspond à la réalité des prestations assurées par le mécanicien. Bon, entre autres exemples, donc il y a bien ce recueil d'informations, cette compréhension fine de la situation.
Nous avons des bénévoles qui sont particulièrement formés, soit qu'ils avaient déjà cette expertise dans leur carrière professionnelle, soit à travers les dossiers, le nombre de dossiers qu'ils ont traités et les formations qu'ils ont eues. Donc, on a une personne plus spécifiquement compétente dans l'immobilier, une autre dans la banque, une autre sur les problèmes des véhicules. Bon, voilà, on arrive à avoir des compétences sur le terrain, quoi, dans notre association locale au service des consommateurs.
Vous avez évoqué l'intervention possible d'avocat. Où s'arrête donc ce que fait l'UFC Que Choisir et donc où commence l'intervention du juriste professionnel, d'un avocat ?
Bien déjà, c'est en fonction du préjudice et du montant du préjudice. Hein. Si on est au-dessous de 5 000 euros, bon, on peut traiter nous-mêmes. Si on dépasse ces montants-là et qu'il y a vraiment une orientation vers... une juridiction, le fait de pouvoir saisir un tribunal, là, il vaut mieux que ce soit un avocat qui accompagne le consommateur. Mais là, il peut déjà avoir un conseil de façon gratuite avec un avocat qui lui-même va le conseiller également. Et après, c'est le consommateur lui-même qui choisira s'il veut continuer son action ou pas.
Du coup, la résolution des problèmes, est-ce qu'elle passe assez souvent par la voie, je dirais, de la conciliation ou de la médiation, sans que ça aboutisse à un contentieux et au passage devant un tribunal ?
Oui, nous, c'est vraiment notre rôle, d'être plus dans la médiation, le conseil, la solution. On n'hésite pas à appeler le professionnel directement. Ensuite, bien sûr, on les saisit par courrier. En principe, lorsque les personnes voient notre en-tête, je pense que là, ils réagissent bien plus que si c'est le consommateur seul
isolé, bien sûr.
Qui le saisit. Donc, souvent, il y a une résolution unique déjà par le fait que nous démarrions une action.
D'accord. Du coup, c'est ça. Il y a quand même la notoriété ou l'image que l'UFC Que Choisir a constituée qui joue favorablement.
Bien sûr. Oui, tout à fait.
Pour mettre le professionnel dans de bonnes dispositions, en tout cas, dans de meilleures dispositions que dans le face-à-face entre lui et son client.
Oui, tout à fait. D'accord. Quelque chose que le grand public sait moins également, c'est que nous avons des bénévoles formés comme représentants des usagers. C'est-à-dire que nous intervenons dans les commissions des usagers, dans les établissements sanitaires. Donc, mettons sur Montpellier, nous sommes sur 27 établissements et nous avons donc des bénévoles formés, agréés par l'ARS et qui défendent les patients. les problématiques qu'il peut y avoir.
Qui représente les patients dans un certain nombre d'instances, notamment dans les à l'Agence régionale de santé. Il y a plusieurs commissions.
Ouais, c'est oui, ça. Déjà ça, c'est-à-dire là, dans les instances, mais également dans les établissements, dans les cliniques, dans les, à l'hôpital de Montpellier, dans les D'accord. cliniques privées, dans beaucoup d'établissements sanitaires. Et ça, souvent, le grand public le sait moins.
D'accord. Alors, bon, la question vient d'elle-même. Est-ce que le Covid a induit, je dirais, une mobilisation ou une acuité des questions que les représentants de l'UFCC bon, dans les établissements de santé, cliniques et hôpitaux ont engendré là, bon, ça a été particulièrement important là. Bon,
Oui. Disons que là, ça, donc on dépend de la commission des usagers. Après, on est dans d'autres instances. Il y a énormément d'instances dans le secteur sanitaire. Mais là, ça a été un peu compliqué pendant le Covid parce que les CDU, dans les commissions des usagers, ne siégeaient pas. Mais on a beaucoup travaillé par téléphone. Hein,
même... Oui, parce que vous avez des interlocuteurs dans chacun de ces établissements voilà. que vous pouvez
oui, tout à fait.
Solliciter directement oui, oui. sans passer par la voie d'une commission qui se réunit oui, de temps
oui,
en temps.
Oui,
d'accord.
Tout à fait.
D'accord. Donc, ça contribue à monter, je dirais, que l'intervention de l'UFC que choisir couvre tous les champs de... Au-delà de la consommation stricto sensu, comme on l'entend, bon, je parle des produits qu'on achète, bon, les piscines du coin ou au supermarché à la sortie de la ville, ça concerne la plupart des aspects de la vie quotidienne oui. des personnes et des familles.
Oui, et cette année, c'est-à-dire 2022, nous nous sommes engagés dans une action que nous n'avions pas portée auparavant sur Montpellier. Il y avait le renouvellement des conseils d'administration des représentants des bailleurs sociaux. Et donc là, nous avons établi des listes de locataires, de bailleurs sociaux, pour candidater au niveau des conseils d'administration de ces bailleurs. Nous avons ciblé les deux plus gros bailleurs, c'est-à-dire ACM et Héro Logement.
Bon, ils sont les plus importants en termes de logement qu'ils
voilà,
gèrent. Hein, c'est
en,
ça.
En termes de logements
ACM,
sociaux,
c'est
en nombre.
C'est plusieurs milliers, donc...
Ouais. Et au logement aussi. Et nous sommes arrivés premiers. Alors, pour une première, c'était assez...
Donc, une responsabilité nouvelle.
Tout à fait.
Une organisation ad hoc nouvelle que vous avez donc dû préparer, installer.
Tout à fait. On a créé une commission du logement hein, que nous n'avions pas jusqu'ici. On a créé cette instance, on se réunit, on prépare toute une organisation pour informer au mieux les locataires des bailleurs sociaux qui nous font confiance. Et donc, nous allons voir avec eux, on a démarré en janvier, hein, c'est très récent, comment on va pouvoir aller au plus près de leurs préoccupations. Mais pas uniquement ça, hein, c'est pas uniquement des problématiques de location, c'est aussi comment on peut les informer au mieux hein, sur les problèmes d'énergie, sur les économies au niveau de l'eau. Enfin, voilà, on a un tas d'outils qui peuvent, je pense, intéresser les locataires. Et nous allons essayer d'animer justement des réunions publiques avec eux pour leur donner des conseils de consommation. Mais nous n'hésiterons pas, bien sûr, à les défendre.
S'il y a des litiges, bien sûr. Bah,
et voilà,
bien
ça sûr. C'est...
Donc là, même formule, j'imagine que vous appuyez à la fois sur l'acquis national, la connaissance de ces questions de logement, les aspects juridiques, etc., ouais. les problématiques de différence entre la demande d'un logement social et la production de logement social, il y a des soucis.
Oui.
La demande augmente et la production diminue. J'ai encore vu des chiffres oui. nationaux récemment. Et donc voilà, donc c'est un oui. champ d'activité nouveau oui. auquel vous attaquez.
Oui. Et ça, je pense que, vous savez, c'est quand même le loyer. C'est 30% des dépenses d'un ménage. Hein. C'est énorme hein, dans le pouvoir d'achat. Ça a forcément une incidence sur le pouvoir d'achat. Donc, je pense que c'est un champ très important. Et mon projet aussi, ce serait de toucher le logement étudiant. Parce que je pense que sur les étudiants, il y a vraiment énormément de problématiques au niveau de leur pouvoir d'achat. C'est une population qui souffre pas mal.
On l'a vu, ça, oui.
Voilà. Et là, c'est vraiment quelque chose que nous aimerions développer pour venir au plus près d'eux, quoi, pour les conseiller et voir les possibilités d'action avec eux.
Alors, une autre volet de l'action des associations de consommateurs, notamment la vôtre qui est connue, c'est... les comparatifs de prix, les comparatifs, les tests de produits, les comparatifs dont on a parlé. Vous y contribuez aussi localement, ces actions
oui.
qui ont qui sont connus nationalement.
Oui, nous avons des enquêteurs sur place. C'est-à-dire qu'il y a soit des campagnes nationales où on va nous demander, je vous donne un exemple, mettons, normalement, il y a des produits dans le supermarché qui sont au rappel. Hein, il faut qu'ils soient retirés. Des rayons et que ce soit que le consommateur soit bien informé. Ça, le national ne peut pas le faire du national. Donc, c'est nous qui avons des enquêteurs. Je vous donne un exemple, mais il y a des enquêtes régulières pour aller vérifier si c'est fait ou pas. Et ensuite, toutes ces remontées nourrissent les enquêtes nationales et nous permettent d'agir. Auprès des marques, auprès des enseignes, rappeler la réglementation.
L'interdiction de la vaisselle jetable dans les restaurants dits fast-food, là, vous êtes intervenu par exemple dans ce sujet qui a fait écho au plan national
On ne l'a pas fait sur le territoire. On a d'autres actions en cours, mais je ne peux pas vous les dire parce que ça reste secret pour l'instant, tant que ce n'est pas public. On a travaillé, par exemple, des choses basiques. Hein, quand il y a eu le 100% santé, au niveau des opticiens, est-ce que vraiment cette offre est faite au niveau du client qui veut s'équiper, des choses comme ça. Et ça, quand on a fait aussi les enquêtes sur les EHPAD, on l'a décliné bien sûr sur le territoire pour avoir une analyse réelle des coûts, du taux d'équipement, du reste à charge, parce que nous, c'est ça. C'est-à-dire, le consommateur, à la sortie, comment il peut faire, quel est le reste à charge à travers une prestation de service ou un achat. Donc ça, on le fait sur les territoires.
Parce qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises, des lois ou autres, qui confortent la défense des consommateurs, mais vous êtes de ceux qui vérifient leur application effective. Parce que la Direction générale de la consommation, la concurrence et de la répression des fraudes fait son travail. Il y a des moyens dont on peut penser qu'ils ne sont pas toujours suffisants. Mais vous êtes quand même sur le terrain pour voir si, effectivement, ces mesures, sur le papier favorable, sont effectives sur le terrain.
Oui, et puis on travaille avec la DGCCRF. Nous avons, par exemple, quelqu'un qui s'occupe des sériels litiges. C'est-à-dire, à partir du moment où on a un litige récurrent avec... une entreprise, ou bien là, on fait des signalements. Donc, vous voyez, on doit travailler en partenariat pour pouvoir peser
et agir. C'est ça, parce que ce n'est pas un épiphénomène, c'est un système que cette entreprise a mis en œuvre et que vous décelez parce qu'il y a plusieurs cas qui vous sont présentés.
On signale à la direction départementale.
D'accord. Alors, Si on veut vous rejoindre, si on veut être candidat bénévole, comment ça se passe? Parce que ce que j'ai trouvé frappant, c'est que ça demande quand même, ils sont nombreux, 62, vous l'avez dit de mémoire. Ça demande un peu de temps, l'acquisition de compétences qu'on n'a pas toujours, une grande diversité d'interventions. Mais j'imagine que si les gens vous font signe pour rejoindre les rangs des bénévoles, vous ne direz pas non.
Non, on a toujours besoin de bénévoles et de compétences. Et puis, ce qui est bien, je trouve, c'est que on peut agir chacun au niveau de nos possibilités. Moi, je suis présidente, je fais beaucoup, mais je le veux bien. Mais sinon, vous avez des personnes qui sont à l'accueil, vous avez des personnes qui sont au secrétariat, vous avez les conseillers litiges, vous avez, comme je vous ai dit, les représentants des usagers, vous avez une équipe com, parce qu'on fait pas mal d'articles sur Midi Libre, sur la Gazette... donc il y a une équipe communication. Nous développons ce que nous appelons les rendez-vous conso, c'est-à-dire que là, ce sont des bénévoles aussi qui vont au plus près des CCAS ou à la Gazette Café, ou dans des instances où on va pouvoir parler consommation responsable. Donc il y a beaucoup d'actions. Après, il y a des personnes qui font la compta. Nous avons une association. Il faut aussi, il y a toutes ces choses.
Donc, des formes, d'appui, de contribution à l'action de l'association, très diverses, et où le temps à donner à l'association, bien sûr, n'est pas contraint, par principe, bénévoles, des volontaires,
Chacun, et puis c'est surtout tellement riche en termes d'informations, de connaissances, que intellectuellement, je trouve que ça vaut le coup aussi de nous rejoindre pour toutes les thématiques, que ce soit dans l'environnement, la santé, le logement, les transports, que nous pouvons traiter. Nous discutons, nous confrontons nos opinions. C'est cette liberté aussi qui est très riche et très intéressante.
Bien, le message est lancé. Je vous remercie, madame. Et donc, bon vent à l'UFC que choisir.
Merci.
Association locale de Montpellier.
Merci.
Vous êtes née dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.